Il est vrai que le clan occidental avait beaucoup et même énormément misé sur le coup d'État qui a eu lieu le 5 septembre 2021 en Guinée. Mais contrairement à ce qui était prévu, la Guinée se dirige vers d'autres partenaires et se dirige vers de nouvelles politiques qui ne sont pas forcément celles dictées par l'axe occidental. Premièrement, et en ce qui concerne le secteur économique, dans le cadre de sa visite en Guinée, Youba Ba, ministre délégué malien chargé de l'élevage et de la pêche, en compagnie de son homologue guinéen, a paraphé un protocole d'accord réglementant la transhumance entre les deux États. C'était en présence des ministres guinéens chargés des affaires étrangères et l'administration du territoire et côté malien de l'ambassadeur du Mali en Guinée. Pour la circonstance, le ministre Youba Ba a dans son discours remercié les autorités guinéennes pour leur grande disponibilité ayant facilité la signature de ce protocole. Mais ce n'est pas tout, et le clan US OTAN n'est pas au bout de ses surprises, puisque Alpha Condé est rentré en Guinée vendredi 8 avril, après un séjour aux Émirats arabes unis, pour y être soigné, a annoncé la junte au pouvoir à Conakry. Dans son communiqué, le chef de la junte guinéenne, Mamadi Doumbouya, a remercié les Émirats arabes unis pour la grande attention dont l'ancien président Alpha Condé a bénéficié. Doumbouya précise également que l'intégrité physique et la dignité de l'ancien président seront respectées conformément à son rang et à son statut. Et dire que la force d'occupation espérait tant pouvoir exiler Alpha Condé loin de son pays afin de tenter sa chance avec le président de la transition et empêcher que le scénario malien fasse des émules en Guinée. Paris perdu évidemment. Le camp occidental n'est pas au bout de ses surprises. Puisque dans une interview accordée samedi à Guinée News, le porte-parole du gouvernement de la Guinée, Ousmane Gaoul Diallo, a souligné que les Guinéens sont déçus en lisant le communiqué des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui étaient réunis à Accra au Ghana le vendredi 25 mars pour un nouveau sommet extraordinaire sur le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Le gouvernement guinéen a fait comprendre à la CEDEAO qu'on n'évolue pas vers la démocratie sous le dictat et a invité cette organisation à ne pas considérer la Guinée comme un pays en guerre ou un pays en crise, car ce sont les crises qui ont abouti à la situation actuelle en Guinée. Les Guinéens ont eu la France, en effet, le retour du président Condé dans le pays, une posture affirmant ne pas succomber à la pression des Occidentaux et une coopération avec le Mali. Les choses poussent à croire que la Guinée est timidement en train de suivre la voie que le Mali, la Centrafrique ou encore l'Éthiopie, Madagascar ou le Mozambique ont tracée, ce qui montre que la volonté est plus forte et que peu importe celui qui prend les rênes du pays, il a plutôt intérêt à suivre son peuple, car c'est ce qui prime aujourd'hui. Dans l'est de la République démocratique du Congo, pas de cessez-le-feu entre l'armée et les rebelles du M23. Les affrontements qui ont repris mardi se sont poursuivis ce samedi à une quinzaine de kilomètres de la cité de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, sous état de siège depuis 11 mois. L'armée tente de reprendre le contrôle des localités conquises par les rebelles. Mais alors qu'en août dernier, des soi-disant experts antiterroristes ont été déployés en RDC pour ce que les médias occidentaux appelaient de mission d'appuyer l'armée congolaise contre les forces démocratiques alliées ADF, rien ne semble avoir changé et au contraire, la situation s'empire de jour en jour, donnant le prétexte aux instances internationales interventionnistes comme la MONUSCO de maintenir leur présence sous prétexte de l'insécurité. Depuis plusieurs mois, les médias stipulent que Kigali serait derrière les M23 lors de sa dernière rencontre avec les autorités rwandaises. L'ancien envoyé spécial des États-Unis dans la région des lacs, Peter Pham, a clairement affirmé cette information et a fait comprendre que les États-Unis soutiennent l'agression de la RDC par son voisin rwandais. Ravi de rencontrer son Excellence Dr Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, alors qu'il entame sa visite à Washington. Le Rwanda est un partenaire clé pour les États-Unis en Afrique, contribuant à la sécurité régionale et étant le fer de lance des efforts de développement et d'intégration économique, a déclaré Peter Pham, quand pour dire que peu importe les accusations d'agression de la RDC par les militaires rwandais, rien ne va ébranler la coopération entre les USA et la République du Rwanda. Mais pourquoi les États-Unis font chanter la RDC, une Amérique qui détient des forces spéciales dans le Nord Kivu? Il y a évidemment une raison pécuniaire derrière la mesure où le gouvernement Tshisekedi est peut-être pro-américain, mais pas totalement anti-RDC. C'est de loin le code minier qui poserait problème. D'ailleurs, le 30 mars dernier, un colloque de 2 jours s'est tenu à Santon, à Johannesburg, sur la politique minière de la communauté de développement de l'Afrique australe. Il s'agissait d'une initiative de l'ONG Southern Africa Resource Watch et ses partenaires. L'objectif était alors d'amener les pays membres de la SADC à valoriser leurs produits miniers. Tous ces agissements deviennent encore plus significatifs quand on sait que le pétrole manque aux pays européens et que le fait de mettre des pressions sur la RDC pourrait être dans le strict objectif de piller davantage les ressources du pays. L'Assemblée générale des Nations unies a donc voté ce jeudi 7 avril 2022 l'exclusion de la Russie au cours d'une session spéciale urgente sur l'Ukraine. Par 98 votes pour, 24 contre et 58 abstentions, la suspension de Moscou prend effet immédiatement et dans ces votes, on voit se dessiner des positions sur le continent africain qui ne plaisent pas forcément à l'axe occidental. D'un autre côté, la Russie a bloqué une demande du Conseil de sécurité d'avoir des enquêtes indépendantes sur le massacre présumé de Moura au Mali. La demande, rédigée par la France, avait été soumise au Conseil de sécurité vendredi, mais selon plusieurs diplomates, Moscou s'y est opposé, soutenu par Pékin. Comment peut-on analyser cette tendance pro-axe de l'Est en Afrique? Nous avons contacté Pierre Claver-Codeau, éditorialiste et directeur de la publication Horizon Nouveau, magazine international paraissant à Douala au Cameroun à ce sujet.
Pour une analyse sur l'exclusion de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU avec un vote éparpillé de l'Afrique. Madame Oudjé, permettez-moi de dire bonjour à tous les téléspectateurs de Presse TV, la chaîne publique iranienne émettant en langue la chaîne publique iranienne en langue française émettant de Téhéran. C'est toujours avec le même plaisir que je peux m'exprimer à leur attention dans le cadre de vos sollicitations. Oui, Madame Oudjé, il faut quand même reconnaître que sur 54 pays africains, tels que le dicte le résultat des votes, 24 se sont abstenus, 9 ont voté contre, 11 ont tout simplement boycotté le vote, pendant que 10 dont la plupart sont essentiellement constitués des pays en quelque sorte fantoches, comme la Côte d'Ivoire et la Libye, qui, comme vous le savez très bien, n'existent que sur le papier. C'est donc un vote qui, en fait, semble, qui survient après celui de 2011 concernant la Libye, de Muammar Kadhafi avant son assassinat par Sarkozy et Obama, pour faire main basse sur les ressources, sur le pétrole et le gaz libyen à l'époque. Heureusement qu'en 2022, la Russie de Vladimir Poutine est loin d'être la Libye et les pays africains de plus en plus soucieux de leur souveraineté l'ont très bien compris à l'analyse de la répartition des votes évoquée tout à l'heure. Il faut tout de même rappeler à nos téléspectateurs que l'Organisation des Nations Unies s'affiche de plus en plus comme étant tout simplement une institution au texte obsolète et à la solde des Américains et des pays comme la France des pays qu'on ne peut qualifier de néo-esclavagistes. Parlant précisément du Conseil des droits de l'homme en question, aucune condamnation de la part de cette organisation au massacre des civils par les Américains et la France en Irak, en Libye, en Syrie, en Côte d'Ivoire, en Afghanistan, et même des exécutions sommaires dans les Émirats du Golfe Persique au nom de la charia. Vous comprenez donc que c'est une organisation qui pratique la politique des deux poids, deux mesures en fonction des intérêts des pays comme les États-Unis et la France. Ce qui se veut dire que les droits de l'homme sont loin d'être régis par des textes harmonisés, mais davantage à la tête du client. Malheureusement, pour cette fois, une partie de l'Afrique a clairement pris position contre cette pratique qui dure depuis la création du Conseil de l'Organisation nationale des Nations Unies. Voilà, madame, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se révèle par conséquent comme étant tout simplement une institution téléguidée par une main noire américano-occidentale, et à ce titre, ce Conseil me semble légitime, puisqu'il est devenu, comme d'ailleurs d'autres organisations du système des Nations Unies, devenu simplement un instrument à la solde de quelques puissances impérialistes. Il faut prendre, ça se vérifie lorsque vous appréciez ce qui vient de se passer, et surtout le chantage dont les pays africains ayant voté contre ont fait l'objet de la part de la présidente de la Commission de l'Union européenne. Vous conviendrez avec moi que c'est la quête de légitimité des actes de prédation de l'Union africaine, de l'OTAN et des États-Unis qui, en fait, constitue le soubassement de cette organisation. Il faut quand même dire, madame, que de plus en plus, il y a une certaine opinion, ou alors il y a une certaine représentativité de l'Afrique qui semble faire bouger les lignes, qui semble vouloir repenser même le fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies. Vous vous rappelez les revendications portées régulièrement par l'Afrique du Sud concernant la représentativité de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Et ça ne date pas de ce matin. Il y a plusieurs gouvernements qui sont succédés du côté de l'Afrique du Sud qui semblent, depuis quelques années, se constituer, porter haut la voix de l'Afrique pour revendiquer une représentation du continent africain. Et ce qui est totalement injuste dans un monde où l'Afrique, à elle seule, occupe quand même une superficie assez importante et au-delà du fait que la population africaine est également plus importante que celle de l'Europe et de la France et de l'Europe et des États-Unis réunis. On se pose donc la question de savoir comment est-ce que toute cette population n'a pas droit au chapitre lorsqu'il s'agirait de défendre les droits de l'homme, de défendre les intérêts de l'humanité. Vous comprenez que c'est donc une injustice très criarde et à laquelle devraient se joindre d'autres pays africains aux côtés de l'Afrique du Sud pour qu'on parvienne à éviter ce diktat de l'Occident envers les autres peuples très bientôt. Par ailleurs, cette position, la position éparpillée des pays africains, met également en lumière l'incapacité de l'Union africaine, cette fois, à œuvrer en faveur d'une position consensuelle des pays africains et, par conséquent, à veiller sur les intérêts du continent africain pendant que l'Union européenne se révèle avec l'actuelle présidente, comme je le disais tantôt, de cette commission, comme étant une organisation en charge de terroriser les dirigeants africains. Vous vous rappelez la sortie de ces dames qui menaçaient des pays africains ayant voté contre cette résolution, ayant voté contre la suspension de la Russie au Conseil au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Vous voyez donc, pendant ce temps, nous avons des organisations en Afrique, dont l'Union africaine, qui sont incapables, totalement incapables de jouer à fond le rôle de saisir des opportunités comme celle-ci pour que l'Afrique puisse exprimer une position commune. Et cela fragilise, sur le plan géopolitique, cela fragilise particulièrement notre continent. Pourtant, il aurait suffi. Si n'eût été l'obsolété également des textes qui régissent l'Union africaine, cela aurait été une bonne occasion de parler d'une seule voix face à ce qui se passe en Russie, à cette guerre qui se passe en Ukraine et dont l'Afrique pourrait sans doute tirer profit si cela lui permettait de revoir des accords de coopération, de revoir sa position vis-à-vis des puissances impérialistes. Malheureusement, l'Union africaine est absente de ce chantier. Oui, madame, il y a quelque chose à retenir aussi au lendemain de ce vote qui frise. C'est une forme de sanction des pays africains ayant pris sur eux de voter contre la suspension de la Russie. Pourquoi? Parce que je crois que c'est une manifestation de la volonté de ces pays de s'affranchir de s'affranchir de la tutelle de l'Occident et surtout de s'investir dans la construction d'une souveraineté nationale à côté de la revendication davantage de considération au sein de l'Organisation des Nations Unies où les pays africains jouent davantage les figurants, ne prennent pas du tout part aux grandes décisions, comme je le répétais, je le rappelais d'ailleurs, l'Afrique n'est pas représentée au Conseil de sécurité, l'Afrique subit toutes les décisions, il y a des pays comme la France qui jouent sur le plan diplomatique, qui jouent la représentation. Le rôle de représentant de l'Afrique francophone, surtout au niveau des instances comme l'ONU, ce qui est une aberration, c'est même de la folie, parce qu'on ne peut pas comprendre que 60 ans après les indépendances, que les pays, certains pays africains continuent à se comporter comme des petits gamins qui préfèrent les jupons de leur maman à la liberté de construire leur avenir. Donc on est dans un schéma qui aujourd'hui donne quand même l'occasion à l'Afrique, à la faveur de la guerre qui se passe en Russie, en Ukraine, donne la possibilité à l'Afrique de choisir son camp dans un esprit, dans une démarche gagnant-gagnant. Et surtout avec l'avènement de l'axe eurasiatique chapeauté par la Chine et la Russie. C'est donc également. C'est une occasion particulièrement favorable à la révision de nos positions, des positions des pays africains à l'égard de l'Occident, parce qu'on se rend bien compte que l'Occident ne peut pas affronter ni militairement, ne peut pas affronter militairement la Russie. Et aujourd'hui, l'Occident est obligé de se réfugier dans des chantages telles que les sanctions contre la Russie. Pourtant, elle n'a pas les moyens de tenir parce que selon toute vraisemblance, les sanctions sont plutôt retournées sous forme d'un effet boomerang contre l'Union européenne et ceux qui ont osé les prendre contre la Russie. Quand on peut parler en passant du gaz qui sont obligés d'acheter désormais en rouble et de la sortie dans les médias et de la sortie du franc CFA, du dollar américain et de l'euro, des grandes places financières du monde, parce que c'est maintenant le rouble et le yuan qui vont s'affirmer comme étant des monnaies de référence. Je pense donc qu'il faudrait que les pays africains, je crois que les pays africains qui ont voté contre et ceux qui sont abstenus également ont envoyé un message très fort à l'Occident et aux Américains, surtout en leur rappelant que désormais, ils ont le choix de construire leur souveraineté en sortant de l'influence d'un monde unipolaire et en rejoignant et en adhérant à l'axe eurasiatique dont je parlais tantôt, sino-russe, dans la perspective d'une coopération gagnant-gagnant et beaucoup plus humaniste, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent.
Depuis 2021, le Ghana tente, comme plusieurs autres pays, de relancer son économie affectée par la COVID-19, avec une inflation en hausse à 15,7% et une dépréciation de la monnaie nationale. La Banque centrale multiplie les initiatives pour créer les conditions nécessaires à cette relance. L'utilisation de devises étrangères pour les transactions financières est désormais restreinte au Ghana. C'est ce qu'a annoncé la Banque centrale du pays dans un communiqué publié le mardi 5 avril. Il est interdit aux entreprises, aux institutions et aux particuliers de se livrer à des opérations de change sans une licence délivrée par la BOG ou de fixer les prix, faire de la publicité, recevoir ou effectuer des paiements pour des biens et services en devises étrangères au Ghana sans l'autorisation écrite de la banque, indique l'institution. Cette annonce, indique-t-elle, fait suite à d'autres avis de la banque qui mettaient en garde le public contre les transactions non autorisées en devises étrangères. Les nombreux chantiers d'infrastructures publiques au Gabon, doublés de la politique de promotion des filières d'activité locales, ont créé une hausse de performance dans le domaine de BTP en 2021. La tendance devrait se poursuivre cette année encore avec le plan gouvernemental d'accélération de la transformation. Le second semestre 2021 a vu se poursuivre l'embellie observée dans le secteur gabonais des bâtiments et travaux publics au premier semestre. Conséquence, le chiffre d'affaires du secteur cette année-là a augmenté de 18,6% en glissement annuel à 72,6 milliards francs CFA selon la dernière note conjoncturelle du ministère de l'Économie. Des résultats soutenus par le segment bâtiments et travaux publics en lien avec les travaux de la Trans-Gabonaise, la réhabilitation de la voie ferrée, la réhabilitation des voiries urbaines et d'adduction d'eau et la construction de nouvelles salles de classe relaient le nouveau Gabon. Cette hausse de l'activité dans le BTP a également impacté la branche des peintures qui a enregistré des résultats satisfaisants au cours de l'année écoulée. Angéline Ndayishimiye, épouse du président burundais Évariste Ndayishimiye, a salué jeudi l'apport des ophtalmologues chinois dans la campagne d'opération de la cataracte au profit de patients vulnérables. Celle qui préside la fondation Bonne Action s'est exprimée sur ce sujet à la polyclinique Umugira Nenza à Kimimba, une ville de la province de Gitega, à l'issue d'une campagne d'opération de caractère réalisée mercredi et jeudi dans cet établissement. Celle-ci, réalisée gratuitement par des médecins chinois, a permis à 47 patients de recouvrer la vue. « Aujourd'hui, je suis contente car ma vision est en train d'être réalisée. En effet, les médecins ont sillonné toutes les provinces burundaises pour inventorier les personnes vulnérables atteintes de cataracte. » Madame Ndayishimiye a saisi l'occasion pour remercier la Chine pour les soutiens multiformes à son pays en matière de santé, notamment dans la lutte contre la pandémie mondiale, de nouveaux coronavirus et les diverses contributions des missions médicales chinoises au Burundi. La demande en connectivité à haut débit continue de croître au Kenya comme à travers toute l'Afrique. Des sociétés opérant dans d'autres secteurs comme l'énergie et l'électricité mettent leur infrastructure à disposition des opérateurs en quête de ressources pour répondre à la demande. Kenya Pipeline Company, la société publique kenyane des pipelines, a lancé le jeudi 7 avril son câble à fibre optique, faisant ainsi son entrée sur le marché de l'Internet kenyan. La nouvelle infrastructure reliera le port de Mombasa à Kisumu et Eldoret dans l'ouest de Kenya en passant par Nairobi. KPC a déployé ce nouveau câble à l'intérieur de ses pipelines, réduisant ainsi les risques de vandalisme et de destruction. Le câble sera loué aux clients au prix de 22 $ par kilomètre et phare fibre avec une redevance unique de 200 $ par site. 5% du tarif total de location seront facturés par la maintenance. Le lancement du câble à fibre optique de KPC fait suite à l'acquisition par la société d'une licence de niveau 2 auprès de l'autorité des communications du Kenya en 2018.